Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cuisine nel tuo quartiere.
Et motbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Chez nous, on est... moi, je suis québécoise, mon mari est marocain. Fait que chez nous, on mange bien gros de la cuisine marocaine. Fait que chez nous, on mange du couscous et du tagine très régulièrement.
De mon côté, moi, c'est purement québécois. Donc, je vais y aller avec tout ce qui va être pizza, pâté chinois. Par contre, j'ai beaucoup d'amis haïtiens. Donc, manger du ricolé et du griot, c'est quand même quelque chose que je mange fréquemment.
Bonjour, je m'appelle Blanche Bélanger-Saint-Louis.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie Bertrand-Baudin.
Bienvenue dans le parcours balado.
Cuisine ton quartier à Anjou.
Je suis née à Montréal. J'ai un parcours quand même un petit peu particulier parce que dans ma trajectoire de vie, j'ai choisi l'islam en fait comme religion. Disons que ça me distingue un petit peu. Mes parents sont québécois, nés à Rimouski, dans le bas du fleuve. Dans mon parcours, c'est sûr que je dois intégrer tout ça. Ça a été difficile au début, mais là, ça fait une dizaine d'années que je patauge là-dedans, donc je réussis un peu à allier toutes mes identités, mais au début, c'était quand même un défi. Comment je me suis convertie à l'islam, ça a été beaucoup par des rencontres, par des gens qui se sont mis sur mon passage, puis qui m'ont inspirée, puis j'ai eu envie d'autres choses, de vivre quelque chose qui concordait plus avec mes valeurs. Bien, c'est sûr que ça me permet quand même d'avoir, même si je fais partie de la majorité, tu sais, je suis une femme blanche, je suis voilée, je porte le foulard, mais c'est sûr qu'il y a certains obstacles ou il y a certaines choses auxquelles je me bute qui me permettent de peut-être un petit peu mieux comprendre certains obstacles ou certains défis que des personnes immigrantes vivent quand elles arrivent ici. En fait, je pense que ça me permet... Je sais pas, d'être plus empathique ou d'avoir une meilleure compréhension de ce que des familles peuvent vivre quand elles arrivent ici puis qu'ils se sentent différents. Pas qu'ils le sont nécessairement, mais qu'ils sentent peut-être faire partie d'un groupe minoritaire, là, finalement. Dans notre travail d'intervenant, on vise beaucoup l'intégration des familles, mais c'est sûr qu'il y a un gros aspect d'adaptation qui est nécessaire, mais c'est juste de prendre le temps de s'adapter à justement une nouvelle culture parce que les familles qui arrivent ici, les familles immigrantes, souvent ils se butent à beaucoup de nouveautés. Là. Ils vivent des différents chocs, des chocs culturels. Puis c'est de pas oublier tout le bagage qu'ils ont. Des fois, les parents arrivent ici, par exemple, les parents immigrants, puis ils se disent, ils sentent parfois qu'ils perdent comme leur capacité. Ils sentent des fois incompétents, mais ils les ont toutes les compétences parce qu'ils étaient parents au pays d'origine. C'est juste que là, ça demande une certaine adaptation à un nouveau pays, un nouveau système. Puis il y a beaucoup de nouveautés. Il faut qu'ils se donnent le temps aussi de s'adapter, puis de pas oublier toute la richesse aussi. Il arrive avec un bagage extrêmement riche. Puis donc, on mise beaucoup là-dessus, sur toute la richesse de la langue d'origine, de la culture. Puis dans les interventions qu'on fait avec les familles, c'est ça, c'est qu'on mise sur tout ce qu'ils peuvent apporter aussi à leurs enfants, puis à la société aussi, de manière générale.
Déjà, à la base, je suis née à Saint-Léonard et j'ai grandi à Anjou. Donc, c'est un quartier que j'ai vu évoluer pratiquement toute ma vie. Il y a eu beaucoup de changements avec le temps. Je trouve que avec le temps, il y a beaucoup de besoins qui se sont développés dans le quartier Anjou. Je pense qu'il y a beaucoup de familles aussi qui sont arrivées depuis quelques années dues à certaines situations qui se produisent dans les pays d'origine aussi. Donc moi, depuis environ 6 mois, je coordonne le projet École Famille Communauté dans les secteurs de Saint-Léonard et d'Anjou. Donc, j'essaie d'appuyer le plus possible justement les agentes. On sait qu'ils vivent des fois des situations qui sont quand même assez complexes. Donc, les aider à affronter un peu les réalités des familles. Malgré le fait que je suis québécoise, je suis née dans les quartiers, j'ai des parents qui sont québécois aussi. J'ai côtoyé beaucoup de nationalités moi-même en étant plus jeune et même aujourd'hui en étant adulte. Donc, je suis capable de comprendre certaines réalités que ces familles-là vivent à certains moments. Elles vivent justement, le fait d'arriver ici au Canada, on sait il y a beaucoup de chocs culturels, justement, dû au fait que c'est pas la même nourriture, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes besoins. Il faut s'adapter aussi beaucoup au système scolaire québécois. On sait que c'est pas toujours facile d'arriver ici et de comprendre cette réalité-là. Donc, d'accompagner les agentes, justement, à faire un bon accompagnement avec ces familles-là, ça permet justement, pour moi, de mon côté, d'avoir une meilleure compréhension aussi du rôle que les agentes jouent.
Avec le programme École, Famille, Communauté, vu que nous, on dessert les écoles du quartier d'Anjou, bien, on a affaire à des familles de tous les horizons, donc autant des familles immigrantes qui avaient un projet économique, donc qui ont le statut de résident permanent. On travaille avec les familles réfugiées, des familles demandeurs d'asile aussi, qui sont dans des situations extrêmement complexes, parce qu'on sait que l'accès aux services pour les demandeurs d'asile, c'est un gros enjeu. Donc, on travaille avec des familles de différents horizons, et pas nécessairement des familles immigrantes, aussi des familles issues de milieux défavorisés, mais qui sont un petit peu plus éloignées du système scolaire. Puis, donc, on est là pour essayer de créer des ponts, puis faciliter les relations, finalement, entre ces familles-là et les milieux scolaires et tous les autres organismes et institutions là, du secteur.
C'est sûr que, dû à la situation de la COVID en ce moment, ça complexifie un petit peu la chose. Les agents ne vont pas directement non plus dans les maisons. Donc, c'est souvent des références qui sont faites par les milieux scolaires. Donc, à ce moment-là, aussitôt que l'agent reçoit cette référence-là, il va prendre contact avec la famille. Donc, c'est un service qui est volontaire. Donc, si la famille ne tient pas nécessairement à recevoir ce service-là, on ne peut pas pousser non plus pour offrir ce service-là. Et une fois que le service est offert à la famille, ça peut être pour de l'aide vestimentaire, de l'aide alimentaire, pour mieux comprendre le système scolaire québécois. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être demandées par les familles. Donc, ils font l'accompagnement, peuvent faire les références vers les organismes du quartier, s'assurent de faire un suivi avec les familles. Donc, ça peut être des suivis ponctuels, de faire des appels. Et souvent, par exemple, je sais qu'il y a certaines agentes qui peuvent recevoir des appels par manque de couches. On sait que c'est quand même assez dispendieux. Donc, on essaye de trouver des façons de dépanner un peu les familles parce que ça coûte cher aussi, tout ce qui va être le logement, la nourriture. Donc, de faire un bon accompagnement avec ces familles-là.
Ça ne fait pas partie de notre mandat d'offrir de l'aide aux devoirs. Par contre, nous, dans notre accompagnement des familles, on va plutôt être là pour essayer de favoriser des environnements les plus favorables pour la réussite scolaire des élèves. Donc, ça veut dire qu'on va accompagner les parents plus dans l'encadrement de la période des devoirs et des leçons. Donc, quand il y a des difficultés, quand c'est une période qui est plus conflictuelle, où il y a des tensions à la maison, on va essayer d'aider les parents à développer des techniques, des stratégies qui vont faciliter cette période-là pour que ça soit le plus optimal possible. Moi, je travaille directement avec les familles, donc c'est sûr que j'ai comme plusieurs familles qui me viennent en tête. Il y en a une, entre autres, qui m'a particulièrement touchée parce qu'elle était dans une situation particulièrement vulnérable. C'est une famille demandeur d'asile. En fait, c'est une maman monoparentale demandeur d'asile avec deux enfants, deux jeunes enfants. Et puis, quand on a été en contact la première fois, c'est la banque alimentaire du quartier qui l'a référée vers moi parce qu'elle devait inscrire son plus vieux à l'école. Il était rendu à 5 ans. Elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle sortait très peu de chez elle. Ça faisait à peu près un an qu'elle était ici. Puis, elle ne connaissait pas du tout le quartier encore. Elle ne connaissait pas beaucoup les ressources. C'est une famille qui dormait par terre, là, au sol. Là, donc, il y avait encore beaucoup de besoins de base, là, des besoins primaires. Puis tu te dis, mon Dieu, cet enfant-là, va falloir qu'il aille à l'école puis qu'il performe à l'école alors que la base n'est même pas là encore. Là, donc, c'est une famille qui a demandé beaucoup d'accompagnement très serré, mais en même temps, j'ai vu qu'elle a beaucoup développé d'autonomie, cette maman-là, au fur et à mesure. T'sais. Au début, c'est sûr que bon, moi, j'allais chercher les denrées alimentaires ou les couches ou les choses que la banque alimentaire, la banque d'aide matérielle pouvait offrir, j'allais les porter chez elle. Mais éventuellement, j'ai vu qu'elle a développé aussi plus d'autonomie pour contacter les différents services d'aide et de ressources pour s'aider aussi dans sa situation. Donc oui, ça c'est une maman coup de cœur.
En fait, durant toute l'année, on peut recevoir des dons aussi directement au YMCA. Donc, on peut aider ces familles-là justement à bonifier tout ce qui va être alimentaire, vestimentaire. Donc, ça peut être des dons de n'importe quelle façon parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, tu sais, généralement, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Donc, on essaie d'aider le plus possible ces familles-là justement en faisant ce genre d'accompagnement-là qui va être plus personnalisé avec eux.
Si vous entendez ce balado-là et vous dites peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir contact avec une agente école-famille-communauté, c'est sûr que nous, on travaille directement dans les écoles. Donc, Notre présence, elle est là, proche des familles, proche du milieu de l'enseignement aussi, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec le personnel scolaire. Donc, nous, on nous trouve dans les écoles, mais on a aussi un bureau où on peut nous trouver sur le boulevard métropolitain, donc au 8150 Métropolitain Est, au local 110. C'est là où les agents École, Famille, Communauté d'Anjou travaillent aussi. Ça fait partie du mandat École, Famille, Communauté d'offrir des activités pour les familles, des activités, des sorties familiales, justement, pour favoriser la rencontre. En temps de pandémie, c'est quelque chose qui a été mis un petit peu plus de côté, ce qui était un peu plus difficile. La plupart de nos activités ont été en virtuel pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup reprendre, des visites au musée ou pour découvrir aussi son environnement, finalement, puis aller à la rencontre de d'autres familles. Bien, les agents École, Famille, Communauté, ils sont à Anjou, autant dans les écoles primaires qu'à l'école secondaire d'Anjou. Donc, on dessert les familles d'âge scolaire, donc primaire et secondaire, mais même des familles qui ont des enfants en bas âge, donc des enfants qui sont dans les milieux de garde, c'est des familles aussi qui ont des besoins, puis on est là aussi pour les soutenir. Bien, Anjou s'est beaucoup, beaucoup diversifié dans les dernières années. On a accès à... c'est un portrait complètement différent. Là, il y a de plus en plus de familles immigrantes, des jeunes familles aussi qui sont nouvellement arrivées. Puis oui, il y en a des tensions. Puis oui, le rapprochement interculturel, c'est quelque chose sur lequel on veut miser, en concertation aussi avec les autres organismes du quartier, parce que c'est pas toujours facile, les tensions interculturelles et même intergénérationnelles, je dirais. Il y a toutes sortes d'enjeux particuliers à Anjou, là, mais oui, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler, les YMCA, mais en partenariat aussi avec les autres organismes d'Anjou.
Quand même l'arrivée de plusieurs familles immigrantes, mais aussi pas seulement ça, c'est le fait que les gens se sont éloignés aussi du système scolaire québécois. Je pense que le fait d'assurer une présence auprès des enfants, ça fait quand même une bonne différence. Et je vois depuis quelques années qu'il y a certains parents qui, eux, ne se sentent pas compétents. Donc, c'est vraiment d'essayer d'accompagner le plus possible ces parents-là à se redécouvrir comme parents, d'avoir un meilleur accompagnement, mais aussi de leur dire qui sont des bons parents. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important, que je vois que depuis les années, ça l'a beaucoup, beaucoup changé. Les gens doutent beaucoup de eux. Je pense aussi qu'il y a certaines familles qui se font refuser l'accès à des logements parce que ce sont des familles trop nombreuses. Parfois, on voit aussi qu'elles se font refuser par rapport à la nationalité. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai été consciente aussi, que j'ai des gens qui ont grandi avec moi, qui m'ont déjà partagé ce genre de commentaires-là, et je trouve ça désobligeant, en fait, que certaines familles, par rapport au fait qu'ils soient nombreux, la nationalité, la culture, se font refuser l'accessibilité à un logement quand on sait que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, d'avoir un toit sous la tête. On ne peut pas élever ses enfants dans la rue. On doit avoir ce logement-là, on doit être capable de donner la nourriture aussi aux enfants, mais avec le coût de la vie qui a augmenté aussi depuis les dernières années. Il y a tout ça aussi. Donc, le quartier d'Anjou s'est beaucoup appauvri aussi depuis les dernières années, honnêtement. Il y a comme de l'abus aussi par rapport, je pense, aux propriétaires qui voient qu'il y a des familles qui sont nouvellement arrivées, ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas à quoi elles ont accès. On va peut-être en profiter même un peu plus pour justement aller chercher le profit, tout ce qui est monétaire, pour faire de l'argent sur le dos des gens. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit changer aussi avec les années. Et malheureusement, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué aussi depuis plusieurs années, ce changement-là.
Ce qui m'a attiré le plus dans le programme École, Famille, Communauté, c'est ça. C'est comment on arrive à développer des partenariats avec, avec les écoles, mais avec les familles aussi, en impliquant les familles, en impliquant les milieux communautaires. Tous ces milieux-là, en partageant les expertises de chacun, c'est là où on réussit à créer des environnements favorables pour la réussite, pour la persévérance scolaire des jeunes. Puis c'est très fort dans le programme École, Famille, Communauté, comme on a réussi à développer cette magnifique collaboration-là. Donc oui, je tenais à souligner cet élément-là aussi du projet. On collabore très souvent avec le CSA, le Carrefour Solidarité Anjou, avec le CHORA. Donc, c'est ça, le CSA donc, offre des services pour les familles nouvellement arrivées. Le CHORA a une autre spécialité, c'est une banque alimentaire. Ils font de l'aide vestimentaire, de l'aide matérielle. Donc, c'est absolument nécessaire pour nous de travailler avec eux pour soutenir les familles. On travaille avec le SAC d'Anjou aussi. Donc, quand, par exemple, les élèves arrivent vers la transition, vers le secondaire, puis que là, ça sort un peu de notre expertise, il y a des agents de transition qui peuvent soutenir les élèves, qui peuvent soutenir les familles dans cette transition scolaire-là. Donc, Oui, on travaille en étroite collaboration avec tous les organismes du quartier.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir été à notre écoute pour le balado. Ça nous a fait extrêmement plaisir aussi de partager un peu qu'est-ce que nous, on fait au quotidien. Je pense que notre travail d'agent école, famille, communauté, et même moi, étant coordonnatrice du projet, je trouve que c'est quelque chose qui est super important et qu'on essaie d'aller chercher le plus de familles possible du quartier justement pour les aider et justement apporter une certaine autonomie aussi à la suite du passage des agents école, famille, communauté. Et moi, ce que je nous souhaite, honnêtement, c'est d'avoir un peu plus d'ouverture. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très fermées par rapport aux nouvelles cultures. Donc, c'est justement d'avoir une certaine ouverture, mais d'avoir comme un peu, Blanche l'a nommé aussi, d'avoir moins de préjugés face à ces familles-là.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.